99.1.
Le mix.
Le goût du monde. Clémence Denavy sur RFI.
Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, 13h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
Le tour de l'actualité dans le monde avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants sur tous les continents pour parler aujourd'hui, vendredi 10 avril, des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Elles doivent débuter dans les prochaines heures au Pakistan, même si pour l'instant, on n'a pas de confirmation concernant les délégations et leur arrivée à Islamabad. On en parle dans une dizaine de minutes dans la Fabrique du Monde et dans un peu plus d'une heure avec notre invité pour mieux comprendre les atouts dont dispose le Pakistan, ses liens avec Téhéran et Washington et ses chances d'aboutir à un accord. La question du Liban est un point central. Le pays pilonné par Israël mercredi, 300 morts en une seule journée d'horreur. De nouveau bombardé ce matin, le pays pourrait discuter directement avec les autorités israéliennes. C'est en tout cas ce que dit Benjamin Netanyahou. On en parle dans une heure.
RFI Midi.
Au sommaire également, le dernier jour de campagne électorale au Bénin, dernier meeting pour les candidats. Le dauphin du président Romuald Ouadani et le représentant de l'opposition dite modérée, Paul Hunkpé. L'affiche n'enthousiasme pas vraiment à Cotonou.
Oh, est-ce qu'il a un choix à faire? Parce que le challenger, lui, il n'a ni délégué, ni maire en fonction, ni un représentant dans la fonction administrative. Donc, ce n'est pas un challenger. En tout cas, le jour-là, moi, je ne vais pas aller voter. Parce que je ne vais pas prendre encore mon temps pour aller me mettre dans les rangs et continuer pas à tamponner des feuilles.
Nous appellerons notre envoyé spécial dans Afrique Midi, à midi et demi, temps universel. On parlera aussi de l'élection présidentielle à Djibouti aujourd'hui et d'un autre scrutin en Europe, en Hongrie. Là, ça sera dimanche et ça s'annonce très incertain. Voilà pour le programme. Bienvenue. Et tout de suite le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Au troisième jour de la trêve entre l'Iran et les États-Unis, place aux négociations.
Oui, elles n'ont pas encore commencé, mais elles se mettent en place avec une incertitude sur la participation iranienne, pas encore confirmée. Ces pourparlers doivent débuter demain samedi à Islamabad, sous médiation pakistanaise, la capitale transformée en ville fantôme où les discussions auront lieu dans un hôtel de luxe. L'Iran et les États-Unis auront 15 jours pour mettre un terme définitif à la guerre. La question du Liban fait figure de ligne rouge après les frappes meurtrières de mercredi, malgré le cessez-le-feu. Mais les lignes ont fini par bouger hier, puisque le département d'État, le ministère américain des Affaires étrangères, a fait savoir qu'il accueillerait des discussions. Les précisions sur place à Washington de Vincent Souriau.
La diplomatie américaine se précipite et confirme qu'une table ronde va se tenir à Washington la semaine prochaine à une date encore indéterminée. Rencontre trilatérale, États-Unis, Liban, Israël, au niveau des ambassadeurs, avec deux thématiques principales, la violence à la frontière libano-israélienne et le désarmement du Hezbollah. Le timing est crucial car cette annonce intervient juste avant les pourparlers d'Islamabad et ce n'est pas une coïncidence. La Maison-Blanche ne veut donner aucune prise au régime iranien et souhaite montrer qu'elle peut tordre le bras de Benjamin Netanyahou. Certes, le Premier ministre israélien l'a répété hier, pas de cessez-le-feu. Malgré ce nouveau cycle diplomatique avec le Liban, Israël va continuer de bombarder le territoire libanais. Mais le vice-président J.D. Vance, qui mène la délégation américaine, va s'employer à séparer les deux dossiers, Liban d'un côté, Iran de l'autre, avec un argument clé. Puisque désormais le Liban négocie de manière souveraine avec Israël, à vous, responsables iraniens, de faire des concessions concrètes et de céder aux exigences des États-Unis. Vincent Souriau, Washington RFI.
Pour le moment, rien n'est réglé pour le détroit stratégique d'Ormuz, quasiment bloqué par l'Iran. Le trafic maritime s'écoule au compte-gouttes. Sa réouverture était pourtant l'une des conditions du cessez-le-feu. Le marché mondial du pétrole reste actuellement très tendu avec un prix du baril aux alentours de 100 dollars. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande que soient de nouveau appliquées des sanctions sur le pétrole russe, des sanctions partiellement levées en raison de la crise énergétique provoquée par cette guerre au Moyen-Orient. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, elle, continue sans relâche. Au moins 3 morts dans les dernières frappes, 2 en Ukraine, 1 en Russie. L'émissaire russe Kirill Dmitriev est à nouveau aux États-Unis pour des pourparlers liés à des questions économiques. Le Kremlin précise qu'il ne s'agit pas de négociations concernant le conflit en Ukraine. En Birmanie, la junte conforte son emprise. Quelques mois après des élections de façade, le chef de la junte Min Aung Leng, 69 ans, a prêté serment en tant que président. C'était ce matin lors d'une cérémonie au Parlement. La Chine tente de relancer le dialogue avec Taïwan. Elle ne renonce pas, malgré les tensions toujours vives dans le détroit qui sépare les deux pays. À Pékin, le président Xi Jinping a reçu Cheng Li-woon, chef du premier parti d'opposition taïwanais, le Kuomintang. Une première depuis 10 ans. Mais dans le même temps, Pékin intensifie ses pressions militaires et diplomatiques sur Taïwan. RFI Pékin, Claire Broders.
La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces et n'exclut pas le recours à la force pour en prendre le contrôle. Malgré cela, le président chinois Xi Jinping se dit convaincu d'un avenir commun entre Chinois et Taïwanais.
Le monde n'est pas en paix et la paix est d'une valeur inestimable. Les compatriotes des deux rives du Détroit sont tous des Chinois. En tant que famille, nous aspirons à la paix, au développement, aux échanges et à la coopération. Telle est notre volonté commune.
Selon Xi Jinping, l'avenir des relations entre les deux rives doit être placé entre les mains des Chinois eux-mêmes, un processus qu'il qualifie d'inévitable au regard de l'histoire. De son côté, Chen Liwen a souligné que les regards du monde entier étaient tournés vers eux et que la responsabilité historique leur incombait.
La paix est une valeur morale commune aux deux rives. Les partis devraient dépasser les affrontements politiques pour réfléchir ensemble et construire une communauté de destin où les deux rives prospèrent de concert, en recherchant une solution institutionnelle permettant de prévenir et d'éviter la guerre.
Un discours d'apaisement donc, mais qui intervient dans un contexte de pression militaire accrue de la Chine sur l'île et de profondes divisions à Taïwan sur la ligne à suivre face à Pékin. Cléa Broders, Toshosian Yuan, Pékin. RFI.
Dernier jour de campagne électorale en Hongrie avant les législatives de dimanche.
Oui, avec en nombre porté l'influence exercée par la Russie. La Commission européenne a réclamé à Budapest des explications après des informations faisant état de conversations au téléphone avec la Russie sur des documents internes de l'Union européenne. La France a dénoncé une trahison de la Hongrie. Emmanuel Macron a été reçu ce matin au Vatican par Léon XIV, près d'un an après l'élection du pape américain. La première visite au nouveau pape devait être dominée par le conflit au Moyen-Orient, avec une préoccupation partagée pour les chrétiens du Liban. Le contenu des échanges n'a pas filtré dans l'immédiat, mais on sait que Léon XIV se rendra dans quelques jours en Algérie. Emmanuel Macron aurait fait passer un message en faveur de la libération du journaliste français Christophe Glaise, incarcéré depuis juin 2025 en Algérie.
La France confrontée à une polémique sur le 1er mai, la fête du travail.
La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, dénonce un coup de poignard dans le dos de millions de travailleurs. Les députés ont approuvé ce matin une motion de rejet préalable du texte autorisant le travail de certains salariés le 1er mai. Ce vote a pour effet d'envoyer directement le texte devant une commission mixte députés-sénateurs. Explication de Raphaël Delvolvé.
C'est la règle. Si une proposition de loi déjà adoptée par le Sénat est rejetée, elle va directement en commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs chargés de trouver un compromis. Les macronistes, ardents défenseurs du texte, ont choisi cette option, la députée Nicole Dubré-Chirat.
Certains groupes politiques ont fait le choix de l'obstruction, rendant impossible l'examen de ce texte dans un délai raisonnable.
Tout cela se déroule dans une niche, donc avec un temps de débat limité, et la gauche, très opposée au travail le 1er mai, avait prévu un tombereau d'amendements. Elle dénonce un coup de force parlementaire. L'insoumise Mathilde Panot.
J'aimerais quand même qu'on réalise que tous les syndicats de notre pays sont contre la destruction de ce droit arraché dans le sang.
Merci,
et
madame.
Par plus de 100 ans de lutte.
La séance a été très tendue, la gauche a cherché à gagner du temps entre suspension de séance et rappel au règlement, ou encore en entonnant des chants dans l'hémicycle.
À ce stade des débats, au-delà du bruit dans l'hémicycle, nous avons réussi à entendre monsieur.
Ça n'a toutefois pas suffi, car une majorité allant du Bloc central au Rassemblement national a préféré renvoyer le texte en CMP, une commission que les défenseurs du texte espèrent rapidement convoquer et où un consensus a toutes les chances d'être trouvé. Si le processus aboutit en 3 semaines, la loi pourrait être appliquée dès la prochaine fête du travail.
Raphaël Delvolvé du service politique. J'ajoute que ce feu vert donné au travail le dimanche concerne notamment des commerçants comme les fleuristes et les boulangers. À Djibouti, petit pays de la Corne de l'Afrique, ces jours d'élection présidentielle. Le grand favori est le sortant Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis bientôt 27 ans, bien parti pour entamer un 6e mandat.
En football, on connaît le nouveau président de l'Olympique de Marseille.
Qui pour succéder à l'Espagnol Pablo Longoria, parti en février, de nombreux noms avaient circulé ces dernières semaines. Finalement, le choix du propriétaire américain de l'OM, Frank McCourt, s'est porté sur Stéphane Richard, haut fonctionnaire français et ancien patron d'entreprise. Victor Missistrano, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Stéphane Richard vient d'être présenté à la presse avec une feuille de route bien précise.
Oui, sa mission est claire, ramener la stabilité, le calme. Voilà ce que Frank McCourt attend de son nouveau président, ex-directeur général du groupe de télécommunications Orange. Stéphane Richard présente un profil qui tranche avec celui de Pablo Longoria. Plus âgé, moins volcanique, le dirigeant de 64 ans compte apporter son expérience pour guider l'OM vers un nouveau cycle.
Une période de sérieux,
d'apaisement aussi, de stabilité. Je m'efforcerai, moi, de renouer tous les fils et tous les liens avec l'ensemble des publics et de prendre, je dirais, méthodiquement, un par un, tous ces problèmes pour y trouver la meilleure solution possible.
Et car l'OM, club le plus populaire de France avec le PSG, a traversé de nombreuses tempêtes ces dernières années. 10 changements d'entraîneur en 5 ans et des crises multiples entre tensions entre joueurs et conflits avec les supporters.
Que vis-à-vis des supporters aussi, qui sont une partie prenante essentielle de la vie du club, il y a un dialogue à réinventer, à reprendre. Et ça, c'est une mission qui me plaît parce que j'ai eu l'occasion dans ma vie, dans plusieurs circonstances, de le faire.
Passionné de foot, amoureux de la ville, Stéphane Richard se donne pour objectif de participer à la Ligue des Champions chaque année. Pour l'heure, Marseille est quatrième de Ligue 1 et devra remonter sur le podium pour s'assurer d'être qualifié l'an prochain.
Merci Victor Missistrano. J'ajoute que Stéphane Richard prendra ses fonctions officiellement en juillet prochain. Et dans l'immédiat, dès ce soir, Marseille reçoit la Lanterne Rouge Metz au Vélodrome, qu'on envoie 18h45 temps universel. Enfin, dans l'espace, retour en vue pour la mission Artemis. Le voyage historique touche à sa fin après avoir été envoyé vers l'espace par la plus puissante fusée jamais construite et après avoir fait le tour de la Lune. Les 4 astronautes d'Artemis se préparent à leur retour sur Terre, prévu précisément à 00:07 temps universel. Dans l'immédiat, 13h et bientôt 12 minutes ici à Paris. RFI 8, RFI Midi 8 avec vous Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Vous nous en parliez dans le journal, des négociations doivent commencer au Pakistan, pays médiateur entre l'Iran et les États-Unis. On s'y arrête dans la Fabrique du Monde, Guillaume Nodin. De quoi va-t-on parler ?
Le sujet le plus urgent, c'est l'inclusion ou non du Liban dans la trêve décidée il y a un peu plus de 48 heures. Les frappes israéliennes de mercredi y ont causé un véritable carnage avec plus de 300 morts et 1000 blessés. Elles ont causé une forte émotion à travers le monde et de vives réactions diplomatiques. Même son allié américain demande à Israël d'agir avec retenue. Hier, sous pression américaine, l'État hébreu a accepté l'ouverture de négociations directes. Le gouvernement de Beyrouth demande d'abord un cessez-le-feu. Il y a aussi des sujets qui concernent plus directement le dossier iranien, comme la levée des sanctions économiques, le programme nucléaire et surtout la circulation dans le détroit d'Ormuz. Elle était libre avant le conflit et elle est désormais contrôlée de fait par l'Iran, qui perçoit même des droits de passage. Le problème, c'est que tout le monde ne parle pas forcément de la même chose. La partie iranienne a publié un plan en 10 points, dont certains parfaitement inacceptables par les États-Unis. À Washington, on évoque plutôt un document en 15 points, mais qui n'est pas public.
Et donc, c'est le Pakistan qui rend possible ces discussions.
Oui, le pays est une puissance nucléaire. Il entretient de bonnes relations à la fois avec l'Iran, son voisin, et les États-Unis, mais aussi avec des pays impliqués dans le conflit, comme la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui ont été visés. La Chine a également agi discrètement pour que cette réunion soit possible. Difficile donc de refuser quelque chose à ces pays-là. Les négociations au plus haut niveau doivent commencer samedi. Côté iranien, sont attendus aux dernières nouvelles le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, qui se trouve être aussi un ancien commandant des gardiens de la Révolution. Côté américain, il y aurait les négociateurs de confiance de Donald Trump, son gendre Jared Kushner et Steve Witkoff, son envoyé spécial, ceux qui négociaient avant la guerre, ce qui pose un léger problème de confiance puisque la guerre avait été décidée en pleine négociation. C'est pour cela qu'il y a aussi et surtout le vice-président J.D. Vance.
Et ça, c'est un message envoyé par la Maison-Blanche.
Message à destinataire multiple. L'Iran d'abord. Sur le plan protocolaire, le vice-président, c'est le deuxième plus haut personnage de l'État américain. Il est aussi de notoriété publique depuis un article du New York Times trop bien informé pour ne pas être autorisé, voire même organisé par la Maison-Blanche, que J.D. Vance, isolationniste revendiqué, est l'un des rares à avoir fait connaître son scepticisme à Donald Trump sur une intervention américaine en Iran. Au contraire du secrétaire d'État Marco Rubio, par exemple, il a été très discret depuis le début du conflit et le voilà donc mis en pleine lumière. Il va pouvoir montrer ce qu'il sait faire. C'est aussi un message à la base MAGA, dont une partie est mécontente du principe même de l'intervention et de ses conséquences économiques. Tout cela va à l'encontre de ce que le président avait promis durant sa campagne de 2024. C'est donc aussi une manière d'envoyer un signal à cet électorat avant les élections de mi-mandat au mois de novembre.
La Fabrique du Monde, à lundi, Guillaume Nodin.
RFI, l'Europe à midi.
L'actualité en Europe, c'est bien sûr la fin de la campagne pour les législatives en Hongrie. On en reparle dans quelques minutes. Mais d'abord, on va revenir sur le raid de la police russe hier à Moscou, dans les locaux du journal indépendant Novaya Gazeta. Bonjour Jean-François Boutor.
Don't you give it to me. Give it to me. Come on and give it to me now. Give me your love every day now. All right. Feels so
good. Dolli ne bajaya dol nachde nachaun layi uth kade munde kende bhangda bhi paun layi.
Hunger. FM.
Bonjour chers auditeurs, je suis ravie d'être avec vous et honorée de vous proposer cette nouvelle émission intitulée Repartons. Repartons, c'est la rencontre de lieux, de professionnels et passionnés afin d'évoquer des sujets qui font notre quotidien et nous interrogent.
Ah bien, j'y trouve une heure par semaine ou deux heures par semaine selon la réunion. C'est le seul moment de la semaine où je suis pas en compétition. Travail, on est en compétition. Dans les activités, on est quand même en compétition puisqu'on doit se dépasser, on doit réussir à faire quelque chose. Et finalement, à BA, on a juste le droit de retirer ces masques-là, d'être faible, d'avoir envie de pleurer. Je pleure jamais dans la vie. Si mes amis et ma famille me voyaient pleurer comme ils me voulaient pendant un week-end, ils se disaient « c'est pas possible ». Il n'y a qu'ici que je pleure en fait. Et c'est un moment où on se comprend par un regard, par un sourire, par une boîte de mouchoirs tendue. Et ça suffit à rebondir en fait.